Et il arriva que lorsque Sambalat a pris que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité. Et il se moqua des Juifs et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit, « Que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Offriront-ils des sacrifices? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées? » Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit, « Au reste, pour ce que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retomber leur outrage sur leur propre tête, et livre-les au mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. Mais nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Mais il arriva que, lorsque Sambalat et Tobija et les Arabes et les Ammonites et les Adodiens apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à se fermer, ils se mirent dans une grande colère, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Et nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde contre eux jour et nuit à cause d'eux. Et Judas dit, les forces des porteurs de fardeaux faiblissent, il y a beaucoup de décombres, nous ne pouvons bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne le sauront pas et ne le verront pas jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, et nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Et il arriva que, comme les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent et nous le dirent par 10 fois de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous, j'établis des postes dans les endroits bas, dans les espaces derrière la muraille et des lieux découverts, et je plaçais le peuple par famille avec leur épée, leur pic et leur arc. Et je regardais et je me levais. Et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible. Et combattez pour vos frères et pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et quand nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait dissipé leurs conseils, il arriva que nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. Et dès ce jour-là, la moitié de mes jeunes hommes travaillaient à l'œuvre, et la moitié tenait les piques et les boucliers et les arcs et les cuirasses, et les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissent la muraille et ceux qui portaient les fardeaux et ceux qui les chargeaient faisaient le travail d'une main et de l'autre main tenaient une arme. Et ceux qui bâtissaient avec chacun leur épée ceinte sur leur rang et bâtissaient et celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi. Et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là rassemblez-vous vers nous. Notre Dieu combattra pour nous. Ainsi, nous faisions l'ouvrage, et la moitié d'entre eux tenait les piques depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps-là aussi, je dis au peuple, que chacun avec son serviteur passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit en garde et que le jour il fasse le travail. Et ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes hommes, ni les hommes de la garde qui me suivaient, nous n'ôtâmes nos vêtements, chacun avec son arme à sa droite. Jusqu'ici. Pourquoi donc prendre une histoire de l'Ancien Testament pour illustrer les principes pour aujourd'hui? Une question qui se pose. La raison se trouve dans le verset que l'apôtre Paul nous écrit en 1 Corinthiens 10, verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivèrent à Israël comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Voilà la raison pour laquelle certainement le Seigneur nous a conduits à considérer déjà les trois premiers chapitres de ce livre de Néhémie, qui nous montre dans le chapitre premier déjà le défi, dans ce fait que, et c'est un parallèle avec notre temps, parce que nous aimerions donc, avec l'aide du Seigneur, tirer des leçons pratiques pour notre vie personnelle, individuelle, et aussi pour l'assemblée, pour les rassemblements, et aussi pour les besoins autour de nous. Les murailles en ruine, les portes brûlées, les brèches qui ont donc besoin d'être réparées. Et l'appel est là. Est-ce que nous sommes disponibles à être des réparateurs des brèches, là où nous sommes déjà? Alors pour cela, il faut donc faire une investigation, une examination des choses présentes. Il faut premièrement savoir donc aussi et connaître la pensée de Dieu à propos de l'Assemblée, de son Église, la pensée de Dieu à propos des besoins dans ce monde, et aussi la pensée de Dieu pour nous, chacun et chacune de nous. Pourquoi nous sommes ici, laissés sur cette terre? Pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour vivre pour lui et pour vivre pour les autres. Donc, le défi, c'est que cette question qui se pose, est-ce qu'il y a en nous un esprit, une attitude de souci pour les autres? Est-ce que nous sommes prêts à aider là où il y a des brèches? Commençons, et nous avons vu donc le serviteur préparé dans le chapitre premier, mais aussi équipé dans le chapitre deuxième, envoyé par son Dieu. La main de mon Dieu avait été bonne sur moi, son témoignage rendu. Et cela a encouragé donc aussi ses frères, ceux qui se trouvaient à Jérusalem. Et de même esprit, ils ont dit, chapitre 1, verset 18, « Levons-nous et bâtissons. » Cet esprit de Néhémie était donc contagieux. Oui, nous sommes en effet une influence, si nous le réalisons ou non. Est-ce que nous serons donc une influence pour le bien, positif, ou une influence destructive, négative? Voilà une question qui se pose. Pour Néhémie, c'est pas seulement une investigation, mais il cherchait donc aussi d'avoir la coopération et la communion de ses frères, remplis de même esprit, pour construire. Et avec une détermination sainte, ils ont commencé. C'est là que nous avons considéré donc l'autre fois, dans le chapitre 3e, où nous avons vu le besoin. Le besoin était donc pour commencer à sa maison. Quatre fois, nous avons lu des personnes qui réparaient des brèches vis-à-vis de sa maison. Nous avons posé la question, où est-ce qu'il faut commencer donc à être constructif, positif, en bénédiction? C'est à la maison. Tout personnel dans la maison d'intérieur déjà, mon cœur, mon attitude, ma communion avec le Seigneur Jésus. Et puis, si nous sommes mariés vis-à-vis de nos épouses, nos époux, et si nous avons des familles vis-à-vis de nos enfants, et si nous sommes donc membres dans le corps de Christ vis-à-vis de l'Assemblée, des frères et sœurs, et si nous sommes dans ce monde donc aussi vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, sans connaissance du Sauveur Jésus, voilà, on commence là où le Seigneur nous a placés. Chacun de nous. Et les ouvriers, donc, ont fait ce bon travail. Maintenant, nous venons à notre chapitre 4 et nous pouvons peut-être donner un aperçu de tout ce livre de Néhémie qui se divise en quatre grandes sections, une sorte de canevas. Les trois premiers chapitres nous montrent donc la préparation des serviteurs, l'équipement et aussi le commencement du travail, chapitre 3. Avec notre chapitre 4, nous commençons une deuxième division, jusqu'au chapitre 7e. Cette section nous montre l'opposition au travail, certainement. Il y aura de l'opposition. Dans le chapitre 4e, c'est l'opposition du lion rugissant, le diable, l'ennemi de nos âmes. Le chapitre 5e, c'est la corruption de la chair de l'homme, de notre nature naturelle, la chair qui est en nous. Chapitre 6e, les artifices de l'adversaire, de différentes manières dont il cherche à infiltrer, à empêcher le travail. Nous ne sommes pas ignorants des artifices du diable, dit l'apôtre Paul. Chapitre 7e nous montre l'administration de la cité, Jérusalem, l'ordre, si vous voulez. L'ordre qui doit aussi exister dans l'assemblée, la maison de Dieu. Avec le chapitre 8e, nous commençons une troisième division qui nous parle de l'autorité de la parole de Dieu. De revenir à cette parole. Et combien nous en avons besoin aujourd'hui que de revenir à l'autorité de la parole de Dieu, puisque dans le christianisme d'aujourd'hui, cette autorité est niée, reniée, rejetée. Il y a maintenant des docteurs de théologie qui rejettent l'autorité et la pleine inspiration de la parole de Dieu. Donc, pour nous, il faut retourner à ce que nous dit la parole de Dieu, des principes divins. Chapitre 8e, donc, la parole de Dieu et son efficacité. Chapitre 9e, l'humilité que la parole demande de nous, l'humilité devant cette parole. Et chapitre 10e, c'est donc une alliance qu'a fait Israël avec l'Éternel. Nous ne pouvons pas entrer maintenant dans la question est-ce qu'il faut faire des alliances aujourd'hui ou des vœux. Je n'en pense pas. Puisqu'on sait la plaie de son propre cœur, on sait très bien que si on fait un vœu, on ne peut jamais le maintenir. Donc, ne commençons pas à donner ou de faire des vœux avec le Seigneur Jésus. Simplement confesser, Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque moment. Mais avec le chapitre 11e, c'est la quatrième division qui nous parle de l'administration de la ville. Le chapitre 11, la distribution du peuple, chacun dans sa place. Le chapitre 12e, la dédicace de la muraille et la joie. Et aussi finalement la discipline nécessaire dans la ville, chapitre 13e. Pour nous ce soir, c'est donc chapitre 4e, l'opposition. Le lion rugissant, le diable, le conflit, la lutte. Personne aime des conflits. Nous aimons beaucoup une vie paisible, une vie dans une harmonie totale. Tout le monde s'aime, que nous avons une même pensée. Mais c'est vrai, c'est demandé que de vivre ainsi. On peut en effet échapper ou éviter le conflit. Mais alors, on peut donc perdre les vérités de la parole de Dieu si on n'est pas prêt à tenir ferme la doctrine, la sainte doctrine de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu, les principes spirituels de la parole de Dieu. Si on n'est pas prêt à tenir ferme à cela, on peut donc échapper le conflit. Mais une fois qu'on se tienne ferme sur la parole de Dieu, je dis sur la parole de Dieu, je ne dis pas sur nos propres opinions, je ne dis pas non plus notre propre interprétation, mais je parle des doctrines fondamentales de la parole de Dieu, les vérités divines. Si on se tient ferme à cela, alors on va rencontrer le conflit. Nous voyons donc ici le conflit dans ce chapitre 4e. La nature de ce conflit se divise dans ce chapitre en deux. Nous pourrons dire les versets 1 à 9 c'était l'opposition de l'extérieur, qui venait de l'extérieur, et depuis le verset 10 à 12, l'opposition qui venait de l'intérieur. Et puis, verset 13 à 23, comment donc triompher dans une telle situation? Je pense qu'on commence avec l'opposition intérieure qui est peut-être le plus difficile à faire face. L'opposition d'un frère, d'une sœur, que c'est difficile. Mais c'est tout à fait normal qu'on accepte l'opposition de l'extérieur, de l'ennemi. On sait très bien qu'il s'oppose. Mais est-ce que c'est possible qu'entre frères et sœurs en Christ, qui marchent dans l'esprit, ou qui doivent marcher dans l'esprit, on rencontre de l'opposition? Je ne pense pas que si chacun marche par l'esprit, qu'il y aura une contradiction ou une opposition. Si chacun de nous marche par l'esprit, tout près du Seigneur Jésus, on trouvera l'harmonie et l'unité et pas l'opposition. Donc, là où il y a friction, là où on trouve de l'opposition, de contradiction, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre avec le Seigneur Jésus. Eh bien, on est très vite à dire, mais certainement c'est chez lui. Lui, il n'a pas raison. On ne commence pas chez soi. Et c'est justement cela qu'il faut commencer. Il faut commencer avec soi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, à moi qui oppose? Et cherchez donc, pas par un compromis, mais cherchez donc par la direction de l'esprit à se mettre d'accord les uns avec les autres, de parler une même chose, d'avoir un même cœur. Et c'est encore plus difficile si l'opposition devient de quelqu'un qui doit donc être un exemple parmi les croyants. Et ce que nous trouvons, par exemple, premièrement dans le verset 10, c'est Judas. C'est Judas qui n'est pas positif. Judas dit les forces des porteurs de fardeaux faiblissent. C'est tout ce qu'il pouvait voir. La faiblesse par la puissance de l'Éternel, par les ressources de l'Éternel, par le fait que l'Éternel était avec eux. Non, il voyait la faiblesse. C'est bien de regarder en soi-même et de réaliser que nous sommes faibles, mais il ne faut pas rester là. On le confesse, Seigneur, moi je suis faible, je ne peux rien faire sans toi, mais notre suffisance est en Dieu, nos ressources sont en lui. Donc, de Judée, on a des très belles paroles. En Genèse 49, par exemple, le verset 8, nous lisons une prophétie sur Judas, donnée donc par son père, Jacob. Genèse 49, verset 8, « Toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » Ah, quel appel donc pour lui! Mais maintenant, il regarde l'ennemi, il a peur, il a crainte, il n'est pas vainqueur. Sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi, etc. Jusqu'au verset 12, des paroles très saisissantes. Mais ici, nous voyons Judas dans un état, dans une condition spirituelle basse. Et il parle de faiblesse. Et encore, il ajoute, il y a beaucoup de décombres. Sans doute, il y avait beaucoup de décombres. L'apôtre Paul a dû dire, écrire à Timothée dans son deuxième épître à Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7, et surtout le verset 7, je le lis pour être exact, 2 Timothée, chapitre 1er et verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sobre bon sens. Pas un esprit de crainte, pas comme ici, un Judas qui ne voit que la faiblesse et que de la poussière, des décombres. C'est une fait qu'il y avait la ruine. On ne pouvait pas le renier. Mais la conclusion qu'il en tire, Judas, c'est tout à fait fausse. Il dit, nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Alors ça, c'est tout à fait fausse. Quand on regarde autour de nous aujourd'hui, il y a de la ruine. Partout dans la chrétienté. Il y a de la ruine même dans les rassemblements des saints. Il y a des murailles qui sont en ruine, des portes qui sont brûlées. Mais de dire on ne peut rien faire, de dire mais il y a trop de poussière, nous ne pouvons pas bâtir, c'est un mensonge du diable. C'est une déception. Non, nous pouvons donc réparer. Mais il faut que nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus et sur les sources intarissables. Et c'est pour ce but que l'apôtre Paul a donc écrit à Timothée cette deuxième épître pour lui montrer les ressources qui sont les nôtres dans les temps de déclin et dans les temps de ruine. Pas de crainte, mais de puissance et d'amour et de sobre bon sens. Donc, on peut bien croire que ces paroles de Judas ont découragé d'autres, mais il n'était pas le seul. Il y avait aussi, deuxièmement, des ennemis. Et il disait, verset 11, « Nous ferons cesser l'ouvrage. » Voilà c'est ce que cherche l'ennemi, de cesser l'ouvrage, de nous enlever le désir même de commencer la réparation des brèches. Ah, mais c'est tellement facile aussi de s'endormir, de ne pas se lever. On est tranquille, on est paisible, on est confortable. On veut éviter des exercices. Les exercices sont difficiles. Des exercices spirituels, je veux dire. Le souci pour les autres. Il faut se lever, il faut donc manifester une activité, une disponibilité. Et pour cela, il faut s'exercer. Il y en a aussi d'autres de l'intérieur, oui, ceux qui sont d'Israël, je veux dire. Dans le verset 12, c'est extrêmement douloureux que de voir les Juifs qui habitaient près d'eux. Des Juifs qui habitaient près de l'ennemi. Et sans doute, qu'est-ce que dit des, on est vite souillé par des mœurs des autres. Quand on se mêle avec les gens incrédules, ce qu'on appelle le monde, quand on se mêle dans le monde, on va parler comme le monde et on va se comporter comme le monde. Et c'est justement cela qu'on voit aujourd'hui dans les rassemblements des saints que l'ennemi a réussi d'infiltrer, même de la façon de penser aujourd'hui, la façon de s'habiller aujourd'hui, la façon de s'exprimer, même se glisser parmi les enfants de Dieu. Et souvent on ne voit pas la différence entre le monde, quelqu'un qui est incrédule, et un enfant de Dieu. Parce qu'ils vivent trop près de l'ennemi. Et ils apprennent de l'ennemi leur habitude, que le Seigneur nous garde. Donc, il y avait de l'opposition dans l'intérieur qui est difficile à supporter. Il y en a ceux qui sont donc pas des ennemis parmi les enfants de Dieu dans les rassemblements des saints. Non, non, ils sont des sœurs et frères en Christ. Ils sont pas des ennemis. Mais, néanmoins, ils font l'œuvre d'un ennemi. Ils se laissent, s'ils réalisent ou non, ils se laissent employer par l'ennemi pour semer des divisions, pour semer de rancunes, pour semer des sectes, des hérésies même. Oh, que nous devons donc veiller à cela. Il y a aussi parmi les saints de Dieu ceux qui n'ont pas de conviction et qui se laissent facilement détourner du chemin que le Seigneur a montré à ses saints pour y marcher aujourd'hui dans un temps de ruine. Non, non, c'est trop étroit pour eux. On cherche quelque chose de plus large. Il y en a ceux qui ne veulent pas se soumettre à la discipline, qui aimeraient bien, pour ainsi dire, visiter voilà, une assemblée ici et rompre le pain, et puis à aller ailleurs, si on n'est pas tout à fait d'accord avec ces pharisiens, on va ailleurs dans un autre endroit, et on rompt le pain là-bas, et puis si on n'est pas d'accord là, eh bien, on va dans un autre endroit. C'est comme une sorte de club. On va d'un club à un autre club. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, on quitte. Il y a ce genre de croyants aujourd'hui. Et ainsi, dans leur comportement, alors ils échappent à la discipline qui doit donc régner dans la maison de Dieu, si on ne reste pas dans une assemblée pour aussi chercher la pensée de Dieu ensemble avec ses frères et sœurs, non. Ils sont même fâchés quand on les demande des questions. Ils disent, moi je suis responsable pour moi-même, moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, tu n'as pas raison de me demander. Ils sont même fâchés quand on les pose des questions. donc manifestent un esprit d'indépendance. Ils ne veulent pas marcher ensemble avec d'autres, parce que pour marcher ensemble, il faut se soumettre les uns aux autres. Et la soumission, c'est quelque chose de détestable d'aujourd'hui. La soumission, non, il faut se maintenir soi-même. Tout cela, mes chers frères et sœurs, ce sont des ennemis dans l'intérieur qui existent aujourd'hui. Il y en a ceux qui sont parmi les saints de Dieu qui parlent toujours, mais c'est eux. Si seulement vous irez là, alors vous verrez la vie, vous verrez l'activité, vous verrez beaucoup d'autres choses qu'on ne trouve pas chez nous. Ils n'ont jamais des choses positives à dire de rassemblement des saints. Je rencontre des gens comme ça, je vous assure, des frères et sœurs en Christ, qui sont toujours négatifs, qui critiquent toujours. On aime à presque dire, mes chers amis, mais si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'êtes pas heureux ici, alors allez, s'il vous plaît, ailleurs, et laisse-nous en paix. Est-ce que je suis un peu dur de dire cela, mes frères et sœurs, mais ça existe aujourd'hui. Veillons donc à ce qui se passe dans l'intérieur. Veillons donc qu'il y a des esprits aujourd'hui qui cherchent à décourager, à démoraliser les saints de Dieu. Il y a aussi ceux de l'extérieur, dans les 9 premiers versets. Mais c'est tout à fait clair. Un Sambalat, par exemple, son nom veut dire « la haine déguisée ». Chapitre 5 et 6, il se déploie de différentes manières. Mais vous savez, c'est un instrument du diable. Et même le diable et ses serviteurs se changent dans un ange de lumière. Pas toujours le lion rugissant. Un ange de lumière, très aimable. Oh, ce sont des braves gens. Et on se laisse entraîner par leur langage. Mais en effet, c'est la haine déguisée. Et un Tobija, en hébreu, Ja, Yohua, Tob, bonté, tiens, bonté de Yahweh. Et c'est un ennemi qui porte ce nom. Oui, encore une fois de plus, c'est un ange de lumière, mais c'est un ennemi. Il faut le discerner. Il faut pouvoir discerner, c'est un ennemi du peuple de Dieu. Alors, les Arabes, ça veut dire mixte, des Ammonites, des tribus, des Asdodiens, je veux dépouiller. Asdodiens, je veux dépouiller. Voilà ce que cherche l'ennemi. Dépouiller. De nous prendre notre joie, de nous prendre notre héritage en Jésus-Christ, nos richesses. Tout cela, c'est donc le but de l'ennemi. Nous avons donc un ennemi. Le monde, dit l'apôtre Paul en Éphésiens, le monde, la chair et le diable. Et entre parenthèses, le plus grand ennemi de moi, c'est moi-même. C'est pas lui ou elle. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. C'est moi. Oh, d'être délivré. Mais la parole nous enseigne que Dieu nous a délivrés. Il a crucifié ce moi, cette vieille nature, le moi. Ma propre volonté a été crucifiée avec Christ sur la croix. Comme nous avons donc accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, qui nous délivre de notre culpabilité et de la punition de nos péchés, il est aussi le sauveur de la puissance du péché. Par l'Esprit Saint qui habite en nous, nous sommes sauvés aujourd'hui par sa puissance de nous-mêmes, de ce moi, ce égoïste qui pense toujours à soi-même. Ah, combien nous avons des luttes contre ce moi. Est-ce que c'est vrai dans votre vie? C'est vrai dans ma vie, je vous assure. On lutte contre ce moi parce que on ne l'accepte pas, cette identification avec un Christ crucifié. On n'accepte pas de dire, oui, on lit en Galates 2, 20, mais est-ce qu'on le pratique? Quand l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec lui, je ne vis plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'ennemi est tout vite à se moquer de nous. Nous voyons cela dans le chapitre 2, verset 10, il était très mécontent. Aussi, dans le verset 19, chapitre 2, ils se moquèrent de nous. Et ici, dans notre chapitre 4, verset 1er, ils se mettent en colère, ils étaient irrités. Le verset 8, ils se liguèrent tous contre nous. Tout cela nous montre l'attitude de l'ennemi vis-à-vis le peuple de Dieu, vis-à-vis de vous et de moi. Ils se moquèrent. Oui, dans le verset 2, ces faibles juifs. Ah, c'est l'ennemi qui le dit. Mais nous avons vu déjà que c'était un frère, un Judas, qui a donc aussi pris le même langage quand il parle de ses frères. Si c'est une accusation de l'ennemi, on peut encore le comprendre. Mais qu'un frère parle aussi du même langage de l'ennemi, ça c'est triste. Des faibles, le verset 2. Offriront-ils? Achèveront-ils? Il pose cette question. Nous voyons cette attitude de Néhémie qui est remarquable. Il ne va pas se défendre. Il ne va pas les répondre. Mais il s'adresse à Dieu. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu. Écoute, car nous sommes méprisés. Il faut laisser cela à Dieu. Il va répondre. Que nous nous occupions donc dans la prière, dans un esprit de dépendance, de continuer à réparer les brèches. Oui, de réaliser qu'il y a un conflit. Et nous sommes tous impliqués dans ce conflit, si nous le réalisons ou non. L'apôtre Paul nous parle très directement en Éphésiens 6, depuis le verset 10, que nous sommes donc engagés dans une bataille, dans une lutte spirituelle contre des ennemis spirituels invisibles. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir nous défendre. Oui, il y a l'offense et il y a aussi la défense. Peut-être il y en a ceux parmi les enfants de Dieu qui n'ont pas ce caractère de se lancer dans une offense. Ils préfèrent rester tranquilles, comme je viens de dire. Mais même la défense, c'est une activité, c'est une attitude qui est active, la défense. Il faut donc savoir ce qu'on croit. Il faut donc être convaincu de ce qu'on a appris, être convaincu de ce que nous sommes là où nous sommes, par conviction. Est-ce que nous sommes là où nous sommes, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Assemblée? Est-ce que nous avons donc pris notre place, la place que le Seigneur nous a montrée? Est-ce que nous cherchons de nous y trouver là où il nous veut et remplir cette place avec conviction, de rechercher sa volonté? Vous dites, mais comment est-ce que je peux reconnaître la volonté de Dieu? Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, de présenter vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. C'est l'activité de l'Esprit en nous. Afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, bonne et parfaite et agréable. Voilà la condition. Nous posons la question, comment est-ce qu'on peut connaître, reconnaître la volonté de Dieu? Premièrement, donc, la condition de se présenter, son corps, son âme, son esprit. C'est un abandon total entre les mains du Seigneur. Et autrement, on ne peut pas lutter. On ne peut pas tenir debout. Et si nous arrivons donc à notre deuxième section de ce chapitre, depuis le verset 13 à 23, comment lutter? Comment en être vainqueur? Il faut donc réaliser qu'il y a des conditions. Avant de se lancer dans la lutte, est-ce qu'il y a des conditions qui disqualifient quelqu'un que de lutter? Et nous trouvons un chapitre dans le livre de Deutéronome, et le chapitre 20e qui nous aide à cela. Deutéronome, chapitre 20. Ce chapitre nous parle aussi de conflit et de la lutte. Pour nous, c'est une lutte spirituelle, la conquête. Verset 1er, « Quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, nous pouvons seulement donc entrer dans cette bataille, cette lutte, après que nous avons réalisé les ressources qui sont à notre disposition. » Et nous voyons que c'est nécessaire de réaliser que il y a ce qui s'appelle au sacrificateur, le verset 2, et aussi le verset 5, au magistrat. Un sacrificateur nous parle donc de l'intimité avec l'Éternel. C'est le sacrificateur qui s'approche, qui vit de tout près de Dieu, qui a donc un discernement spirituel, qui sait ce que c'est que de prier, donc ce qui répond à un service sacrificateur, sacerdotel, ça nous montre nos privilèges, tandis que magistrat nous exhorte, nous montre comment combattre nos responsabilités. Avant donc de commencer la lutte, il y avait l'aide du sacrificateur et l'aide du magistrat. Ces deux services sont nécessaires pour une préparation spirituelle pour la lutte. Nous avons donc l'ennemi qui est puissant. Mais le verset premier nous dit, « Si tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras point peur d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Donc, n'ayons point peur. Le Seigneur est avec nous. Mais il y a quatre conditions qui disqualifient quelqu'un pour entrer dans la lutte. Et j'aimerais appliquer ça à moi-même et à nous tous. Le premier cas se trouve dans le verset 5. « Qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée ?» Voilà quelqu'un qui a donc mis la fondation, qui a donc commencé à construire, tout va bien, il est donc croyant, il a donc pu construire sa maison, sa vie sur le rocher Jésus-Christ, mais c'est tout un peu théorique. Oui, il a confessé ses péchés, il est croyant, mais c'est tout. Voilà la limite de son expérience. Il a le pardon et s'il meurt, il va au ciel. Mais il n'a pas donc eu l'expérience de la vie chrétienne normale, la vie dans la pleine puissance que donne l'Esprit de Dieu, la jouissance. Combien il y en a des chrétiens qui sont vraiment des régénérés, mais qui manquent de la jouissance, qui manquent de l'expérience, de certitude de leur salut. Quel est le remède pour nos doutes, chers frères et sœurs? Il y a un seul remède, c'est de s'approfondir l'étude de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu à genoux et de se soumettre à cette parole. Ils ne sont pas pleinement doués, ils ne suivent pas le Seigneur 100%. Ils gardent quelque chose pour eux-mêmes. Ils ne se sont pas consacrés, on peut dire, se donner au Seigneur Jésus. Ils ont construit, ils ont commencé, mais ils n'ont pas achevé. Est-ce que nous sommes là, mi-chemin? Est-ce que nous sommes des chrétiens, mais pas entièrement pour le Seigneur Jésus? Aussi un peu pour moi-même, un peu pour le monde, mais pas décidé, pas consacré. Donc, une disqualification, on ne peut pas être vainqueur dans une telle attitude. Si le Seigneur n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas du tout Seigneur. Et il ne peut pas nous conduire dans la bataille et sortir victorieux. Nous serons défaits. Deuxième cas, c'est quelqu'un, dans le verset 6, qui est l'homme qui a planté une vigne, qui n'en a pas joui. Une vigne nous parle aussi de la jouissance de l'héritage. Quand Israël est donc entré pour occuper le pays de Canaan, son héritage, il fallait, nous dit Lévitique chapitre 19, verset 23, il fallait au moins 5 ans qui passent pour pouvoir vraiment jouir de ce qu'on a reçu dans le pays de Canaan. Il y a donc ici un manque de maturité. Et souvent, un manque de maturité, c'est la cause d'une faillite. Et combien nous voyons cela? Un manque de maturité spirituelle. Ce n'est pas toujours par ignorance. Si nous ne recherchons pas à nous approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu, si nous ne sommes pas prêts à nous donner entièrement au Seigneur Jésus, on sera faible dans sa vie spirituelle. Nous aurons donc un manque de maturité spirituelle. Non, un juif, dans ce sens-là, il est arrivé à une maturité, il a donc joui de ce qu'il a planté, et sinon, si quelqu'un a planté mais n'a pas joui de cela, alors il ressemble à un hypocrite. Il ressemble à un hypocrite. Il a des choses et il manifeste peut-être d'une extériorité qui est acceptable, mais dans l'intérieur, il n'a pas la jouissance de ce qu'il a reçu. Combien nous avons reçu, chers frères et sœurs. Dieu le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, et combien peu nous réalisons ces ressources, ces richesses. Donc, prendre possession de l'héritage, planter une vigne, d'en jouir, goûter la joie dans le Seigneur Jésus. Il y a un troisième cas dans le verset 7, et qui est l'homme qui s'est fiancé une femme et qui ne l'a pas encore prise. Voilà une personne donc qui s'est engagée. Il a accepté des obligations, mais il ne les a pas encore complétées. Il est resté en arrière. Donc, il a dû donc manifester dans son mariage conçu et donc achevé avec sa femme. Ça aurait été donc aussi une bénédiction pour le peuple de Dieu, une augmentation, si vous voulez, une augmentation pour le peuple de Dieu que cet homme a manqué. Non, pour nous, cela se nous applique. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes donc fiancés, engagés à lui. Mais c'est possible pour un enfant de Dieu que de ne pas réaliser la communion avec le Seigneur Jésus, de ne pas s'identifier avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ, de rester en arrière, de ne pas s'identifier avec un Christ crucifié, enseveli, ressuscité, vivant. On a resté en arrière. Est-ce que c'est notre cas ce soir, chers frères et sœurs? Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fiancés, mais le mariage n'est pas consommé. Nous ne savons pas cette identification, être un même esprit avec le Seigneur dans la pratique, identifié avec lui dans sa mort et sa résurrection. Et donc, cela nous disqualifie aussi. On ne peut pas être vainqueur. Et quatrièmement, il y a un autre dans le verset 8, qui est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit, qui s'en aille et retourne à sa maison de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. Crainte, craintif. Nous avons déjà vu cela en Timothée. Pour faire face à l'ennemi, il faut donc réaliser les ressources qui sont les nôtres en Jésus-Christ, dans une communion intime avec lui. Chaque jour, vivre avec lui, marcher avec lui, parler avec lui, écouter sa voix. Alors, c'est ce que nous trouvons dans ce livre de Néhémie. La prière joue un grand rôle dans ce livre. Dans le chapitre 2, le verset 4, le chapitre 4 et chapitre 5, 6, 13, etc., nous trouvons au moins 7 fois que Néhémie prie, dans notre chapitre aussi. Écoute, ô notre Dieu, verset 4, la prière. Savoir la puissance de la prière. La prière, ce n'est pas toujours de demander. La prière, c'est la communion avec le Seigneur Jésus. De chercher à entrer dans ses pensées, de chercher de s'identifier avec ses intérêts, les intérêts du Seigneur Jésus, dans cette terre, dans l'Église, dans l'Assemblée, dans le monde. Chercher par cette communion de reconnaître sa volonté. Donc la prière joue un grand rôle dans ce chapitre. Mais aussi de s'armer. Nous avons vu cela, le verset 9. Et nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde contre eux. Ces deux choses marchent ensemble. Prier, veiller. Priâmes et sont armés. Prier, veiller. Nous avons donc aussi des armes pour faire le combat. Mais ce sont des armes pas charnelles, mais spirituelles, par Dieu. Et aussi, l'attitude positive est très nécessaire. Dans le verset 6, nous avons lu que le peuple avait le cœur au travail. Pas la tête, mais le cœur, c'est une affaire du cœur. Est-ce que notre cœur est engagé dans ce que nous faisons? Nous pouvons faire des choses par notre intellect, par notre entendement, sans que notre cœur soit engagé. Mais du cœur, on fait ce travail et pour le Seigneur, et pour nos frères et sœurs. Et ainsi, versets 6 et 18, ainsi nous rebâtîmes Le peuple avait donc le cœur pour construire, verset 6, et priait aussi, verset 9, et veillait, verset 9. Et de plus de cela, nous voyons que Néhémie, dans le verset 13, j'établis des postes dans les endroits bas et dans les espaces derrière la muraille, dans des lieux découverts, des hauts et des bas. Des positions hautes doivent être protégées et des positions basses aussi. Et cela nous montre que, de toute manière, l'ennemi cherche à entrer. Il cherche, par exemple, à entrer là où il y a des saints de Dieu qui ont un esprit de supériorité, qui se pensent mieux que les autres. C'est une entrave. Il y a aussi là, par exemple, les Corinthiens qui étaient dans une condition spirituelle basse. C'est là aussi que l'ennemi est entré. Que nous nous veillons, chers frères et sœurs, que nous gardons ces positions hautes et ces positions basses dans le domaine spirituel, dans nos vies et aussi dans la vie de l'Assemblée. Et j'aimerais finir avec une autre pensée qui me pèse sur le cœur. Et il me semble que le verset clé de ce chapitre, c'est le verset 14. « Ne les craignez pas » au milieu de ce verset. « Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et pour vos maisons. » C'est sérieux. Nos maisons. Je reviens toujours à cela parce que nous avons déjà remarqué si la situation dans les foyers des saints n'est pas selon Dieu et n'est pas en ordre, cela a donc un écho aussi dans la vie de l'Assemblée. C'est là donc qu'il faut commencer encore une fois de plus. Dieu a donc ce propos dès l'éternité, la formation du foyer, l'homme et femme ensemble, un seul homme, oui, mâle et femelle, un seul homme, ensemble, une unité. Et Dieu a donc ce propos que dans le mariage soit reflété des relations divines qui existent entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, des relations de l'amour. Et Dieu a donc ce but que, et c'est un but inestimable, c'est un privilège incroyable, que de pouvoir, sur cette terre, réaliser cet amour, cette unité, et de pouvoir refléter un petit peu de ce qui est dans le ciel entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. L'apôtre Paul parle de cela. En Éphésiens 5, c'est un mystère que Christ est l'Assemblée. Donc, la famille, selon Dieu, c'est une bénédiction. Et l'ennemi sait bien s'il peut donc détruire ce noyau, s'il peut détruire la vie de famille, il réussit aussi à détruire la société, là, ce que nous voyons dans le monde. Il réussit aussi à détruire la vie dans l'Assemblée. Donc, il y a une grande responsabilité pour nous tous. L'éloignement de ce propos de Dieu, de ce but de Dieu, nous le voyons déjà dans la parole de Dieu. Que les hommes prenaient plus qu'une femme, la polygamie, et qu'il y a eu le divorce, la séparation. Tout cela, c'était la contradiction de la parole de Dieu. Et pourquoi dans la parole de Dieu, nous trouvons la sévérité de Dieu vis-à-vis de cette telle situation de division dans la maison? Parce que Dieu voulait justement que dans le foyer, il y aura de sécurité pour des enfants qu'il va donner. Qu'il y a donc là de stabilité, un équilibre dans le foyer. Et c'est qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, même dans les rassemblements, on a déjà remarqué cela, qu'il y a des situations tristes dans les foyers des frères et sœurs, où le mari et sa femme ne peuvent pas vivre ensemble, ne se supportent pas. Vous vous imaginez combien les enfants souffrent, leurs deux amis, dans lesquels ils ont placé toute leur confiance, ils ne peuvent pas se trouver dans une unité. Alors, pas de sécurité, pas de stabilité. Qu'est-ce que vous voulez donc pour l'avenir de l'Assemblée? Des troubles dans la famille, il y a des causes pour cela. c'est parce qu'on n'accepte pas de se soumettre l'un à l'autre. On cherche à maintenir sa propre volonté, sa propre opinion, et on ne se soumet pas à ce que la parole nous enseigne. On a fatigué, on a des querelles, on a des paroles, on n'a pas de patience l'un avec l'autre. Comment donc nous voyons que Satan cherche à détruire le foyer? Que le Seigneur nous aide donc à encore réévaluer notre situation, chacun, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille. Parce que c'est ainsi, et ainsi seul, si le Seigneur a la première place dans ma vie, si le Seigneur a la première place dans notre vie de famille et dans l'Assemblée, que l'ennemi sera défait, que nous pouvons donc remporter la victoire, que chacun se trouve, nous voyons cela dans le verset 15, que chacun se trouve à son travail. Nous avons chacun une fonction à remplir dans le corps de Christ et que chacun s'y trouve dans la dépendance sur le Seigneur Jésus. Versets 17 et 18 nous montrent ces activités. Il y en a ceux qui bâtissent. Il y en avait aussi qui portaient des fardeaux. Il y en avait ceux qui chargeaient. Et il y en a ceux aussi, un autre dans le verset 18, qui sonnait de la trompette, chacun dans sa place. Et tout marche selon Dieu. Et il y aura des bénédictions. Si nous cherchons donc à nous tenir à la parole de Dieu et de remplir cette place que le Seigneur nous a donnée, de le remplir comme homme et femme dans le foyer déjà et dans l'assemblée, aussi comme parents et enfants, ceux qui sont des enfants ici, qui se soumettent aussi, qui sont obéissants à leurs parents comme au Seigneur, si nous nous tenons donc, tenions donc à l'enseignement de la parole de Dieu, nous pouvons remporter la victoire. Que le Seigneur nous aide à nous tous de poursuivre avec une détermination sainte de vivre pour lui et de le laisser agir dans nos vies par son esprit pour sa gloire.